De retour à l'émission Au gré du temps, pour cette seconde partie, Armand Dubois au micro, en compagnie du docteur Jean Léveillé, qui ne se définit pas comme un ornithologiste, mais plutôt comme un ornitho-guetteur.
Bien, vous savez, celui qui a fait des études en ornithologie, bien, est gradué, mais moi, c'est plutôt comme amateur. Appelons ça peut-être un amateur un peu plus poussé que uniquement l'observation des oiseaux, parce que c'est le comportement. Et j'ai trouvé dans la nomenclature de la langue française, un terme que j'ai beaucoup aimé, qui est ornitho-guetteur, donc celui qui observe les oiseaux.
Donc, beaucoup de patience pour le faire.
Ah, ça oui, c'est la première chose qu'on doit développer, parce qu'évidemment, on ne dit pas, surtout si on veut faire de la photographie d'oiseaux, on ne dit pas à l'oiseau, mais va t'installer sur telle branche, il y a un beau rayon de soleil, ça va être magnifique. Non, il faut observer son comportement, et ça, c'est fascinant, parce que les oiseaux ont des comportements relativement routiniers, ils vont faire les mêmes choses. La première chose, c'est que l'oiseau, quand on arrive dans son territoire, va avoir peur. Il se demande qui est-ce qui arrive là, etc. Mais il est curieux. Il va finir par revenir. Et là, il va reprendre sa routine quand il s'aperçoit que vous n'êtes pas trop dangereux, que vos appareils photo, ce n'est pas des fusils. Donc, il reprend une routine. Il finit par vous oublier. Et là, vous pouvez faire des photos.
Est-ce que ça varie beaucoup d'une espèce à l'autre?
Ah oui, oui, oui. Il y a des oiseaux individuels. Il y a des oiseaux collectifs. Il y a des oiseaux agressifs. Par exemple, les prédateurs peuvent être très, très agressifs. C'est d'ailleurs ça que je décris aux enfants quand je vais dans les écoles. Tel type d'oiseau, il faut que tu connaisses. C'est un peu comme nous autres, hein? Quelqu'un arrive dans notre jardin, on va sortir, on va aller dire, bien, qu'est-ce que tu viens faire là? Bien, nous, on arrive dans le territoire d'un oiseau, il y en a qui sont pas farouches, il y en a qui sont accueillants, mais il y en a qui sont hostiles, et il faut apprendre les manifestations.
Et curieusement, il y a parfois des paradoxes. Je pense à un oiseau que tout le monde connaît bien, le jais bleu, qui est très beau, mais pourtant, lorsqu'il se met à crier, on s'est dit, il me semble que ça ne va pas avec la beauté de son plumage.
Mais c'est un oiseau qui est reconnu par les autres. C'est celui qui sonne l'alarme. Quand on va en forêt, c'est habituellement le premier qui se met à crier. Donc, il avertit les autres, attention, il y a quelqu'un qui vient de rentrer et il est bien apprécié des autres oiseaux parce qu'effectivement, il y a une voix puissante.
Donc, c'est une belle leçon à retirer. Dans le fond, tout le monde a son rôle.
Effectivement. Ça, c'est très fascinant. Parce que pourquoi certains oiseaux ont développé un goût pour les insectes, d'autres pour les fleurs, d'autres pour les graines de semences, etc. Donc, c'est très intéressant de voir, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des études plus poussées. Comment ça s'est passé? Comment ils se sont adaptés? Ça, c'est un autre aspect qui est absolument... C'est quelque chose que je trouve triste quand j'entends dire les gens, c'est triste, il fait mauvais. Moi, je dis, regardons par la fenêtre, regarde ce qui se passe, tu vas avoir toutes sortes d'étonnements et c'est ça qui met beaucoup d'intérêt dans la vie.
Ici même, au Québec, même dans la région de Montréal ou dans le bas du fleuve, il est possible de faire de l'observation de multiples oiseaux?
Bien, la première chose, si on a un petit jardin, on peut l'aménager pour que les oiseaux y viennent. Et ils ont une bonne mémoire. Ils disent, tiens, il y a un bon restaurant là. Je vais arrêter chaque printemps en revenant à l'automne, etc. Donc, dans notre petit terrain au centre-ville de Montréal, on a vu 130 espèces d'oiseaux.
À ce point.
À ce point. Et je vais dans les écoles et quand j'ai terminé, les professeurs me rappellent en disant « C'est extraordinaire parce que les élèves, en quittant l'école pour se rendre chez eux, ont remarqué pour la première fois qu'il y avait des oiseaux dans leur environnement. Ils ont commencé à les identifier. » Donc, on se déplace, mais on chicane. Hein? Le feu rouge est toujours rouge. Il y a un stop là. Et tel prend son temps. Mais si on prend le temps de regarder, et ça, c'est un autre aspect. Moi, je trouve ça triste aujourd'hui. On voit de moins en moins de parents se promener avec un enfant par la main en lui montrant « Regarde, ça, c'est une fourmi, c'est intéressant. Regarde, ça, c'est un joli papillon. Je suis rentré ici à l'entrée des studios. Vous avez des papillons.
Oui. »
Est-ce qu'on prend le temps d'y regarder? Est-ce qu'on les observe? Et ça aussi, ça change la vie. Hein? Au lieu de toujours chicaner, ah, il fait mauvais, ah, c'est épouvantable, on a un mauvais été, bien, on regarde les beaux côtés. On regarde comment les oiseaux se débrouillent quand il fait moins beau.
Donc, à travers les oiseaux, on peut développer une belle philosophie de vie à l'égard d'une certaine forme de positivisme?
Bien, moi, je trouve qu'on devrait arrêter de se plaindre, de se lamenter. On a une très belle planète. D'ailleurs, Julie Payette, qui fait la préface de mon dernier livre, le décrit. Les bleus, les blancs, quelle merveille qu'on a. Et quelle merveille que cette nature autour de nous, qu'on oublie de regarder. Une belle fleur, ça mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi les fleurs ont développé des parfums aussi extraordinaires? Donc, il faut s'arrêter et arrêter de chicaner, de voir tous les mauvais côtés. C'est épouvantable, il pleut, il y a un orage. Qu'est-ce qui arrive à un pays où il n'y a plus de pluie?
Quelle merveille aussi que ce legs de Ludwig van Beethoven. Vous avez choisi un extrait de la symphonie numéro 7 en la majeure. Une symphonie qui est très connue, le mouvement lent particulièrement, mais cette fois nous entendrons la finale du premier mouvement, Poco Sostenuto de Beethoven. Une pièce qui évoque quoi pour vous particulièrement?
L'adolescence. Parce que à certains moments, c'est pas facile. On était séchés. Nous, mon père avait son bureau avec plein d'enfants qui venaient parce qu'ils étaient malades puis qui pleuraient. Et c'était une espèce de refuge d'aller dans cette musique-là et essayer d'imaginer son état d'âme au moment où il a composé ça. Et moi, ça correspondait à une forme de libération.
Beethoven et Dr. Léveillé font bon ménage, et les oiseaux aussi. Quelle a été votre plus belle découverte? Vous venez de nous parler de cette découverte musicale de votre adolescence, mais au plan des oiseaux, quelle fut-elle?
C'est au Québec. Le huard, le matin, dans le brouillard, en canot, quand le silence est là, d'entendre cette voix qui appelle, qui ressemble à la voix du loup, qui est mystérieuse, cet appel du huard et cet arrêt, parce que le huard attend l'écho. Donc, le huard vit en couple, lance un appel dans le brouillard et il sait qu'il va avoir une réponse. À l'autre bout du lac, il y a, par exemple, un mâle, une femelle qui va répondre.
C'est curieux parce que vous, quand vous racontez cela, il y a une image qui surgit dans mon esprit et probablement dans celui des auditeurs. Au début, presque au début de la télévision, il y avait un intermède lorsque la télévision se mettait en onde. Et c'était le cri du huard qu'on faisait entendre et on voyait cette barque dans le brouillard. Et c'est un peu ce que vous dépeignez, qui est un peu donc l'image de ce que nous sommes.
Bien, voyez-vous, moi, j'aime beaucoup le silence. Je vois les gens qui ont un besoin. On va en ski, on va un petit peu partout. Il y a de la musique, etc. Mais à certains moments, je pense que le silence interrompu par un oiseau, c'est quelque chose de fantastique. Le soir, j'aimais beaucoup le petit Frédéric, le bruant, gorge blanche, hein, celui qui nous dit « j'ai passé une belle journée, le soir s'en vient, on va aller se coucher ». Moi, Frédéric, c'était quelque chose d'important aussi le soir. Donc, le matin, c'était le huard, et le soir, le bruant, gorge blanche.
Tout ça, c'est plein de tendresse, finalement.
Effectivement, comme la vie. Et je pense qu'on oublie que la vie est tendresse. On a tendance à dire, oui, on va présenter aux actualités les choses qui vont mal, il y a une guerre à tel endroit, mais il y a bien des gens dévoués dans bien des endroits. Je reviens aux professeurs qui sont intéressés à ce que les élèves apprennent pas seulement le B.A.B.A. des matières, mais apprennent la vie. Quel beau dévouement! Et je pense qu'on oublie de rendre hommage. Les actualités, c'est celui qui tue un voisin, c'est celui qui fait une collision. On oublie tout ce qui se passe de beau et à ce moment-là, ça permet de changer nos perspectives aussi.
Bourvil dirait qu'il est presque impossible de vivre sans tendresse.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs. des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
La tendresse, les oiseaux, le docteur Léveillé, un parfait ménage, un ménage à trois, mais qui fonctionne très bien, et que vous avez partagé à travers plusieurs publications sur les oiseaux.
Ce sont des publications sur le comportement. Le premier, c'était « Les oiseaux et l'amour ». Ça me vient de... J'étais dans une île du Pacifique où les gens, les populations me disent « As-tu vu nos bécoteux? » Ah, les bécoteux. C'était deux oiseaux dans un arbre qui sont très, très beaux, qui sont sur la couverture du premier livre et qui passaient leur vie à se bécoter. Et comme j'ai fait beaucoup d'études sur le fonctionnement du cerveau, j'ai été intéressé par les gens qui faisaient des études sur le fonctionnement du cerveau des animaux. Prenez l'exemple. On a un chat. Si on lui parle de telle façon, il va comprendre qu'on est content ou qu'on n'est pas content. Si on a un chien aussi, même un cheval. Un cheval, on peut lui parler, on a le film et le récit, l'homme qui parlait aux chevaux. Hein? Donc, on s'aperçoit que ces cerveaux-là fonctionnent aussi. Et le cerveau d'un oiseau fonctionne aussi. Et les gens qui m'ont présenté les bécoteux m'ont dit, « Attends, tu vas voir, l'œil va se fermer. C'est un signe de contentement. » Et de plus en plus, on fait de ces études-là. On disait cervelle d'oiseau au moment où on n'avait pas d'outils pour mesurer ce qui se passait. Maintenant qu'on le sait, on est beaucoup plus attentif.
Plus respectueux à tout le monde.
Oui. Ben, je vais vous dire, il y a un livre qui m'a passionné. C'est sur le comportement des fourmis. Comment 6 millions de fourmis peuvent vivre dans une tanière d'une façon relativement harmonieuse, savoir que toi, tu vas chercher des feuilles, toi, tu t'occupes de ci, etc. Donc, on a beaucoup à apprendre sur le comportement. Donc, le premier, c'était les oiseaux et l'amour.
Qui a été traduit, d'ailleurs.
Qui a été traduit. Les Américains sont venus me trouver en disant, ton approche est assez originale. Parce que, vous savez, les Américains, ils ont tout, hein, l'argent, les spécialistes, etc. Puis pour qu'ils viennent au Québec dire, ben ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça s'est appelé « Birds in Love » et effectivement, c'est répandu dans les pays de langue anglaise. Par la suite, c'était les oiseaux gourmands. Pourquoi les oiseaux gourmands? Parce que comment un oiseau a choisi que lui, il aimait mieux manger des poissons? Si on va à l'île Bonaventure, qu'on voit les fous de bassin, bien, on voit leur effort pour aller chercher des poissons. Un autre, c'est, comme le colibri, bien, c'était le nectar des fleurs. Donc, comment ça s'est développé? C'était les oiseaux gourmands. Le troisième, c'était drôle d'oiseau, parce que on se rend compte maintenant, il y a de plus en plus d'études, les oiseaux sont responsables de la biodiversité. Ils dispersent énormément de graines et on s'est aperçu que quand une espèce d'oiseau disparaissait dans une région, la végétation en souffrait. Et le dernier, c'est les oiseaux explorateurs. Et je fais beaucoup de conférences. Dans une conférence, il y avait des femmes d'affaires et parmi elles, il y avait Julie Payette. Et on s'est rencontrés après et je lui ai dit, les oiseaux ont beaucoup eu de l'influence auprès des grands explorateurs, hein, qu'on prenne Jacques Cartier ou Champlain ou tous les autres, ils parlent toujours dans leurs écrits des oiseaux. Et j'ai dit, pour une exploratrice des temps modernes, qu'est-ce que ça dit, les oiseaux? Et ça l'a intéressée. Donc, elle a écrit une très belle préface où elle fait le parallèle entre la vision des astronautes qui voient la Terre, par exemple, sans frontières, mm-hmm. et l'oiseau qui ne connaît pas de frontières.
Est-ce que la menace à l'environnement vous inquiète?
Bon, moi, je pense que c'est pas tellement une menace qu'une inattention. On n'est pas attentif. On est là, on pense qu'on est tout seul sur Terre. Hein? On n'a pas besoin des fourmis, on n'a pas besoin de rien. Dans le fond...
Mais on est tous dépendants les uns des autres.
On est tous dépendants. Et c'est plutôt une inattention. Si on était plus attentif... Pour moi, l'environnement, c'est pas ce qu'on dit ici. Je m'en vais bientôt dans des populations primitives. Je peux pas leur dire « Produis pas de gaz à effet de serre, pollue pas avec ton auto, recycle. » Non. C'est préserver ce qu'on a.
Mais est-il trop tard pour
non,
préserver?
Pas pour moi. Pour moi, il n'est jamais trop tard pour qu'on comprenne. C'est arrivé à des multiples... Il y a un très beau livre que je suis en train...
Vous êtes un grand sage, vous.
Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup appris. Je vais vous dire, je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Collapse ». Collapse, c'est par Jared Diamond. C'est un best-seller américain actuellement. pourquoi certains pays réussissent. Je vais vous donner l'exemple, l'île de Pâques. Pourquoi l'île de Pâques, les gens sont disparus, les civilisations sont disparues. Donc, collapse, c'est une disparition d'un certain nombre de groupes, mais il y en a toujours d'autres qui réussissent à changer d'attitude. Donc, moi, je suis convaincu, et surtout, j'espère que les jeunes générations vont agir différemment, donc vont s'apercevoir que la vie qui nous entoure, c'est excessivement important et on en a besoin.
Donc, empreint d'espérance.
Oui, moi, je pense qu'on est capable de réagir. C'est sûr qu'on va très loin et qu'on menace beaucoup certains un équilibre, mais je ne pense pas que ce soit trop tard.
Double vie de Véronique.
Ça, c'est un autre beau souvenir et effectivement, vous savez, on a des vies un peu parallèles dans nos propres vies et pour moi, ça représentait effectivement un aspect différent. On a tous des tempéraments qui s'adaptent aux circonstances et qui font qu'on a des personnalités difficile souvent à cerner.
Alors, le concerto en mi, extrait de ce film « Double vie de Véronique ». Docteur Léveillé, le temps file rapidement. On a à peine effleuré le fait que vous avez parcouru la planète à maintes reprises, plus de 100 pays visités, en compagnie, bien sûr, de votre conjointe Denise, qui est une compagne de vie et qui vous a fait découvrir cette passion en vous.
Effectivement, vous comprenez que quand on va faire l'observation des oiseaux et le comportement, on ne peut pas aller avec un groupe. Hein? Moi, ça peut me prendre une semaine avant de réussir une photo à mon goût d'un oiseau. Vous imaginez un groupe qui vient dans un endroit, on dit « oui, j'ai vu un bel oiseau, pouvez-vous attendre une semaine? » Bon, la plupart des voyageurs ne sont pas là pour une semaine. Donc, la seule qui peut tolérer ça, c'est Denise. Et surtout, ça m'aide beaucoup parce qu'elle me dit toujours « Attention, il y a tel crocodile qui s'en vient.
» Et vous avez un site web, si les gens veulent voir quelques photos,
oui,
peuvent suivre aussi
ça.
Vos expéditions, en quelque sorte.
Effectivement, c'est www.jeanleveillé.org ou .com. Donc, on peut suivre ce qu'on fait sur ce site-là.
Et de nombreux projets à venir. Vous avez tellement de choses à raconter. Et moi, ce qui m'intéresserait beaucoup aussi, c'est de questionner le médecin sur cette crise des isotopes. Alors, j'aimerais vous inviter la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourra compter sur vous?
Certainement, avec plaisir.
Alors, on vous retrouve la semaine prochaine. Le docteur Jean Léveillé sera de retour avec nous. Armand Dubois au micro. C'était l'émission Au gré du temps qui a été réalisée aujourd'hui sous la supervision technique d'Alain Primeau. À la prochaine et d'ici là, passez une excellente semaine. Au plaisir, au revoir.
Chante avec les oiseaux. Chante, vois comme il fait beau. Et pour que dans ton cœur le soleil entre. Chante, chante avec les oiseaux. Chante, tu verras bientôt. C'est vrai, bien sûr, mais elle existe. Les plus belles choses de la vie s'en vont, mais s'en reviennent vite. À toi de chanter, de sourire. Tu ne seras plus seule sur terre. À toi ce matin de courir sans plus tard. jour tu en riras de ton chagrin qui s'éternise.
Un jour
la vie te prouvera.